Docteur Pascal Lafrogne, bonjour.
Bonjour Sandra, bonjour à toute l'équipe de Radio Maria, bonjour très chers auditeurs. Alors, tout au long de nos émissions régulières, nous avons traversé, nous avons rencontré bien des situations de santé, des situations de vie que nous rencontrons dans notre quotidien et qui peuvent nous engluer dans un fatras de considérations tant physiques que psychiques, tant douloureuses qu'incompréhensibles, tant injustes qu'irréversibles. Et en effet, la maladie, la souffrance, la douleur, le traumatisme, que ce soit le mien ou que ce soit celui d'un proche que j'accompagne, eh bien, cet événement vient percuter, vient bouleverser, vient détruire, ou en tout cas peut me donner ce sentiment-là, vient de toucher ma vie, cette vie que j'avais jusque-là. Et il y a un avant. Et il y a un après. Et donc, à toute première vue, dans mon regard humain, mon regard humain prend tout d'abord conscience de la perte. De la perte de la santé, de la perte d'un membre qui vient d'être arraché, amputé, de la perte de ma jeunesse, de ma perte de ma liberté de mouvement, de ma liberté de reconnaître les gens, etc. Et je prends conscience d'une perte. Et alors, dans un premier temps, jaillit de mon cœur ce fameux cri que nous avons déjà entendu et que nous hurlons quelquefois, le « pourquoi ?» Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Et dans un deuxième temps, ensuite, eh bien, vient la démarche de prendre conscience, de voir ma vie, de constater que ma vie désormais est accompagné avec la maladie, que cette vie va se dérouler malgré ce traumatisme, que ma vie va désormais être dans la douleur. Et nous avons vu récemment que sans cesser de viser une vie qui est possible, une vie qui nous est donnée, que l'on a reçue et que l'on doit vivre, exercer, eh bien, sans cesser de viser cette vie-là possible, il ne fallait pas chercher non plus à se battre contre la maladie, contre le mal, contre la douleur, mais bien aspirer à cette vie et finalement à prendre conscience que c'est une nouvelle vie et qui sera désormais accompagné de la maladie, qui sera désormais accompagné de la souffrance et qui sera désormais accompagné d'un manque de santé, mais sans se résumer à cette perte-là, c'est-à-dire que la vie est vivante, elle est éclatante, elle est lumineuse et accompagnée de ce nouveau compagnon. Il est essentiel dans toutes ces étapes de ne pas rester seul. Le médecin que je suis, le soignant que je suis, vous incite et je rappelle ça, il est très très important de prendre, de constater, d'accepter, de prendre conscience que ces étapes doivent être vécues sans, pas dans la solitude, mais il faut accepter d'adhérer à une démarche de soins auprès de professionnels, que ce soit pour un mal physique ou un mal psychique, le soignant, le professionnel, l'aidant social ou médico-social ou purement médical, cette personne, ce professionnel va pouvoir aider à désigner le mal, c'est-à-dire une démarche diagnostique. Il va pouvoir ensuite cerner les contours de ce mal, de cette souffrance, de cette maladie, et ensuite chercher à mettre en œuvre, dans la limite de ses moyens, dans la limite des connaissances, dans la limite de ses connaissances à lui, et puis des connaissances de la science, ce qu'on appelle l'état de l'art, eh bien, il pourra mettre en œuvre tout ce qu'il faudra pour tenter d'apaiser le mal, tenter de soulager la souffrance, ou au moins, en tout cas, colmater le besoin de la personne qui est dans cette situation-là, de celui qui souffre ou de celui qui accompagne celui qui souffre. Les deux ont des besoins, les deux ont des besoins à exprimer, les deux ont besoin d'être accompagnés par des professionnels et ces besoins, ces professionnels pourront chercher à les apaiser tant celui qui est dans la situation de maladie que celui qui accompagne et qui est aidant auprès de celui qui vit la maladie. Alors, il sera parfois nécessaire d'avoir même recours à des soins psychiques, car l'effroi causé par la survenue brutale ou insidieuse, inexorable et déterminée de la maladie qui progresse, la survenue de la souffrance, eh bien, cet effroi est lui-même de nature à causer une souffrance morale et psychique. Il y a quasiment un double effet, hein, c'est-à-dire qu'il y a le premier effet de la maladie et le deuxième effet qui est de se prendre conscience de cet état de souffrance, de cet état de maladie, qui est à l'origine d'un, par effet ricochet un petit peu, à l'origine d'une deuxième couche d'une souffrance morale face à la perte. Au manque, quelque chose qui, même une forme de, j'irais même un peu plus loin, une forme de deuil de quelque chose, une fonction, quelque chose qui, enfin quelque chose que je prends conscience de la perte de cela, eh bien, cela vient percuter en moi et ça va créer un état de souffrance morale, de souffrance psychique. Et il faut bien savoir que avoir recours à ce type de soin, le soin psychique, n'est pas une preuve de faiblesse, n'est pas une preuve d'échec, mais au contraire, la prise en compte objectif rationnel de mes limites. Nous sommes bien parfois conscients de nos limites physiques, nous les constatons tous les jours, mais bien souvent, trop souvent, nous surestimons nos forces psychiques et nous ne nous envisageons pas fragiles au point de demander de l'aide pour quelque chose, une souffrance psychique ou une souffrance morale. Mais malheureusement, les connaissances de la neurophysiologie nous permettent de comprendre à quel point ces limites psychiques reposent sur de simples phénomènes chimiques de neuromédiateurs, la sérotonine par exemple, dont la quantité dans nos neurones, dans nos cellules, et la vitesse de fabrication par les processus de fabrication cellulaire, eh bien, cette quantité et cette vitesse de fabrication sont des phénomènes chimiques limités. Il y a une limite. Et donc, mes propres limites sont directement liées à ces limites physiologiques, à ces limites chimiques. Et quand il n'y a plus une goutte dans le puits, eh ben, il n'y a plus d'eau. Et c'est le épuisé. Hein. Il n'y a plus une seule goutte dans le puits. Nous sommes épuisés. Et même si je suis... intelligent, instruit, éduqué, de bonne volonté, consciencieux, battant, motivé, eh bien tout cela, oui, c'est important, c'est très bien. Mais tout cela se confronte à la vérité très brutale et très concrète, de la réalité de ma neurochimie. Et ma bonne volonté, ma conscience professionnelle va se confronter à mes limites physiologiques, qu'elles soient physiques, neurologiques ou psychiques. Et à ce moment-là, nous sommes confrontés à quelque chose que bien des patients, que nous constatons à l'occasion de consultations avec mes patients, c'est que le problème n'est pas de vouloir. Tous ceux qui sont dans ma salle d'attente ne veulent pas être là. Ils voudraient ne pas être malades. Ils voudraient s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que vouloir, eh bien, ça n'est pas le problème. Mais bien, beaucoup plus, un problème de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que mes capacités sont tellement limitées que je ne peux pas aller au-delà. Et je suis alors confronté aux seules limites de mon corps, à ces limites qui peuvent être soit physiques, soit psychiques. Alors, les médicaments, les soins non médicamenteux, il ne faut pas les oublier, hein, toutes les démarches, c'est une démarche de soins globale, eh bien, les médicaments, les soins, les traitements non médicamenteux permettront de pallier cette déficience physiologique, qu'elle soit psychique ou physique, je me répète, et ces traitements permettront contribueront à rendre la vie de nouveau possible avec un traitement qui pourrait être soit définitif, soit temporaire. Mais finalement, toutes ces considérations physiologiques, médicales, scientifiques sont importantes. Mais en fait, tout cela est bien limité et le médecin que je suis dans ma pratique quotidienne ne peut que en témoigner. Combien de fois je me rends compte, je prends conscience que toutes les propositions que je fais, que je propose, qui nous sont offertes par les traitements, sont à un moment donné limitées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. Que je sois celui qui souffre, ou que ce soit mon proche qui souffre quand je suis aidant familial, ou que ce soit mon patient quand je suis un soignant ou un aidant professionnel, médical ou social. Eh bien, toutes ces situations devront être certes appréhendées de la façon la plus globale possible pour chercher à apaiser au mieux la personne, que ce soit dans le domaine médical, social, paramédical, financier, affectif, familial, etc. Mais l'efficacité de toutes ces démarches ne seront jamais que limitées. Si importante et si indispensable soit-elle, j'insiste bien là-dessus. Alors, pourquoi elles sont limitées ? Eh bien, parce que, et là c'est la lumière du Christ, la douceur de la Très Sainte Vierge Marie qui nous permettent d'en prendre conscience, qu'il n'y a que Dieu, par Jésus, par le Christ, qui saura nous combler à la perfection. Personne d'autre. Dieu, le Christ, est l'amour en personne, l'amour parfait en personne. Et cet amour qui peut... notre vocabulaire français est assez limité, on aurait tendance à le... limité à quelque chose de très émotionnel, de très affectif, mais dans le regard, dans la main agissante, dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Christ, cet amour dépasse complètement l'émotion. C'est un amour de surabondance, c'est un amour de bienfait, un amour miséricordieux, un amour qui comble toutes les aspérités de nos imperfections, Dieu, par cet amour, vient colmater, vient lisser, vient compléter tout cela à la perfection. Et en effet, Dieu a créé le monde à l'origine. Il a créé le monde et l'homme. Et cette perfection originelle a définitivement été marquée par le péché originel, cette faute à l'origine que l'homme a commise en considérant qu'il pourrait se passer de Dieu. Et Dieu, dans cet amour infini, cet amour parfait, cette miséricorde absolue, Dieu désire par Jésus, désire par-dessus tout nous rétablir dans son amour. Et pour cela, son Fils s'est fait homme en Jésus, le Christ, pour vivre en toute notre humanité, excepté le péché, vous le savez bien, mais en tout, il a vécu notre humanité, en tout, y compris la pire des souffrances, la pire des humiliations, où Dieu, c'est en se faisant homme, mais ça reste Dieu fait homme, eh bien, se laisse condamner en croix comme la pire des crapules de l'époque. Tout cela pour nous montrer combien il nous aime, combien il désire nous ramener au Père, combien il s'est abaissé pour que nous soyons élevés, nous dit saint Paul. Dieu, à la perfection, s'est abaissé à ce point dans la misère des humiliations, de la souffrance, le sommet de la souffrance, pour nous montrer à quel point son amour est sommet. Et c'est en ressuscitant que Jésus laisse éclater sa gloire et celle de son Père, de notre Père, en piétinant définitivement la mort et le péché. Et par sa mort et par sa résurrection, Jésus le Christ nous invite à le suivre. Il nous invite à le suivre pour réjouir le cœur du Père pour l'éternité et en étant auprès de lui, face à face, à jamais. Alors Dieu est la source de tout. Dieu est aussi notre finalité. Il est la source et il est la finalité. Il est l'alpha et l'oméga. Nous avons entendu ça à Pâques. Et Jésus, le Verbe fait chair, est la source de tout par sa mort et sa résurrection. Et Jésus le Christ est notre finalité. Il est la source de la vie et il en est la finalité. Il est la source de notre amour et il en est la finalité. Il est à la source de notre santé et il en est la finalité. Et c'est alors que nous commençons à soulever le voile du mystère de la souffrance dont saint Jean-Paul II a parlé admirablement dans sa lettre encyclique « Salvifici Doloris », en utilisant les termes même de l'évangile de la souffrance, la bonne nouvelle de la souffrance, dire en quoi la souffrance est inhérente. Même si elle est inhérente à notre condition humaine, elle nous conduit au salut auprès de Dieu. Parce qu'effectivement, quand on prononce cette phrase « Dieu ou le Christ est à la source de notre santé », s'il est à la source, comment se fait-il que ma santé puisse être abîmée à ce point-là ? Alors, Dieu n'a pas créé la maladie, Dieu n'a pas créé la mort. C'est le péché originel qui a introduit la mort et la maladie dans le monde. Mais en revanche, Dieu a laissé cette maladie ou cette souffrance parce que il désire nous montrer la lumière qui jaillit de derrière la croix et parce que cette lumière est combien plus importante pour le cœur de Dieu. Alors certes, il faut passer au travers de la douleur et de la profondeur de la souffrance de la croix du Christ et passer au travers de la douleur et de la souffrance de ma maladie, mais pour percevoir la lumière éclatante, la lumière parfaite de l'amour de Dieu qui jaillit derrière cette croix et cette souffrance, et que Dieu, par le Christ et le Saint-Esprit, nous manifeste. Et c'est cette lumière qui doit nous guider, cette lumière qui est à l'origine du monde et de notre vie et qui en est la finalité au travers de la souffrance et de la maladie. Alors vraiment, je vous invite à relire ce texte « Salvifici Doloris » tant il est éclairant. Certes, ça peut être mystérieux, il peut y avoir des zones d'ombre. Et à ce moment-là, il faut savoir prier l'Esprit-Saint pour qu'il sache ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, qu'il puisse nous aider, nous accompagner, nous porter, pour que nous sachions ouvrir les yeux, les oreilles, notre intelligence, notre volonté, notre cœur aussi, pour distinguer dans les méandres de la maladie, de la souffrance, eh bien que nous sachions distinguer, laisser se manifester à nous cette lumière du Christ Sauveur, du Christ Rédempteur, dit saint Jean-Paul II, ce Christ qui est unique et parfait médecin. Seul lui sait et peut nous soigner à la perfection et il saura nous apaiser dans nos souffrances et il saura compléter à la perfection nos aspérités, nos imperfections. Alors voilà, très chers amis, très chers auditeurs, ce que j'avais à vous dire ce matin. Et puis, en guise de témoignage final, eh bien, je peux vous... C'est quelque chose de plus personnel, mais je peux vraiment vous témoigner que dans mon exercice quotidien, en rencontrant les patients, eh bien, je peux attester que cette annonce de Saint Jean-Paul II dans cette lettre encyclique, Salvifici Doloris, est consistante, est réelle. Ça n'est pas un texte intellectuel, c'est une réalité palpable, authentique, qui peut être vécue, qui doit être annoncée, qui doit être désirée. Et nous, certes, avec nos seules forces, il nous est difficilement... immédiatement intelligible, compréhensible à quel point la souffrance peut être salvifique, comment elle peut être salutaire. Mais je peux vous en témoigner combien de situations absolument effroyables et douloureuses laissent jaillir une lumière qui était tout simplement à une échelle humaine absolument inenvisageable. Nous aurions écrit le scénario, nous aurions fait bien moins bien. Et alors que Dieu, lui, il va aller chercher la lumière là où elle n'est pas envisageable avec notre conception humaine. Il faut savoir se laisser toucher par cette grâce, par la grâce de l'Esprit-Saint, pour être à l'image du bon samaritain, et bien se laisser toucher par ce mourant qui est sur le bord du chemin, et à l'image du bon samaritain, ne pas chercher à tout prendre à mon compte, mais à laisser le mourant à l'aubergiste et se porter garant des bons soins que l'aubergiste saura lui donner. Et le bon samaritain ne porte pas à lui seul les soins du bon samaritain, mais va déléguer le soin de ce souffrant, mais tout en donnant à l'aubergiste tous les moyens, tout l'argent nécessaire pour que le mourant puisse être soigné. Et enfin, et pour finir, eh bien, je peux vous témoigner de l'action, de la manifestation, de l'action... Alors, excusez, je vous demande de me pardonner l'expression malheureuse mais, ou maladroite, mais c'est de voir, de constater l'action de Dieu agissant dans notre quotidien. De constater, de voir se manifester l'action de Dieu, parce que seul Dieu, à un moment, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas mes médicaments, c'est pas mes paroles qui peuvent faire ça. Il n'y a que Dieu qui puisse colmater et répondre aux besoins de cette personne à ce point-là. Et il faut demander à l'Esprit-Saint de nous donner cette grâce, de savoir reconnaître cette action de Dieu et de savoir rendre grâce pour ça.
Docteur Pascal Lafrogne, peut-être une question personnelle. Comment, en tant que médecin chrétien, abordez-vous vos journées ou vos consultations ?
Tout d'abord, par la prière. C'est-à-dire que dès le matin, je confie par avance tous les patients que je rencontrerai et les personnes avec qui je travaillerai, pour que je sache par mes mains, mon regard, mes paroles, mon attitude, être la manifestation de sa main, de son regard, de sa parole, de sa bienveillance, que je laisse agir Dieu à travers moi auprès de ces patients que je rencontrerai. Voilà. J'ai confié dans ma prière, puisque je considère qu'effectivement Dieu, le Christ, est le médecin parfait et il peut agir soit directement dans le cadre de miracles, soit, et donc on dit de façon immédiate, sans médias, ou de façon médiatisée par un moyen qui peut être un soignant, un médicament, un traitement non médicamenteux. Mais c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. De toute façon, Dieu est à l'origine de toute démarche de soin. Et à ce moment-là, ben, le soignant, le médecin que je suis, par la capacité à apprendre la médecine qu'il a eue, comme un infirmier a eu la capacité d'apprendre ses études d'infirmier, une assistante sociale d'apprendre son métier d'assistant social ou un éducateur spécialisé, eh bien, tous nous avons reçu ces capacités d'apprendre, de restituer, de transmettre et de vivre, d'exercer cet art, c'est ce qu'on appelle la parabole des talents, hein, d'exercer ça, quelque chose qui nous a été donné et au service de la personne, mais au service de Dieu. Hein, c'est-à-dire qu'on va rendre de nouveau la personne capable de revenir à la paix et revenant à la paix, lui donner cette espérance, et la source de toute espérance, c'est le bon Dieu. Je participe avec mon petit grain de sable à ce chemin-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est par la prière et en les confiant. Et le soir, en remettant toutes les personnes que j'ai rencontrées, les situations, les personnes que j'ai croisées. Et j'en profite pour porter, vous confier notamment Antoinette, une personne qui est gravement malade et que je porte tout particulièrement dans ma prière. Il nous reste à simplement accepter la volonté du Père, c'est-à-dire que est-ce que la volonté du Père est la guérison matérielle humaine ou est-ce que la volonté du Père est l'accès à une lumière plus grande encore ? Je ne sais pas. En tout cas, notre plus grand désir, ça doit être que la volonté de Dieu soit accomplie, se fasse et que tout le monde puisse la vivre, quoi.
Alors, il y a également une difficulté par rapport à certains malades. Lorsque un malade, à la fois, il peut entendre que Dieu est auprès de lui, mais un patient non-croyant, comment faire pour lui communiquer l'espérance ?
Alors, en étant convaincu qu'il l'a, c'est-à-dire... Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours personnel de croissance, de formation, et puis de mon expérience au cabinet. C'est-à-dire d'être convaincu que même si la personne peut considérer qu'elle n'a pas la foi, ou peut considérer que Dieu n'existe pas, ou peut considérer qu'elle ne croit pas, etc., etc., je suis convaincu que, et ce n'est pas une conviction intellectuelle, c'est une réalité, que cette personne est vivante par la volonté de Dieu et qu'elle a une place dans le cœur de Dieu et que son nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Et que de ce fait, elle a en elle une espérance, une lumière dont elle n'a pas conscience, parce qu'elle est issue de telle ou telle famille, elle a été marquée par telle ou telle épreuve, etc., etc. Mais au fond d'elle, elle a cette espérance-là et elle a cette lumière-là. Et c'est à nous de l'aider à la révéler. C'est-à-dire que nous n'avons pas à imposer quelque chose, à plaquer quelque chose qui nous appartient et que nous cherchons à coller, à imposer à la personne, mais nous avons à l'aider à lui faire prendre conscience qu'elle a en elle une lumière incroyable. Et là, je peux vous en témoigner que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on appelle ça dans le jargon philosophique la maïeutique, hein, faire accoucher, eh bien, nous allons faire révéler quelque chose qui est grand dans la personne. Et nous allons briser les fausses croyances, les raisonnements erronés en aidant, par exemple, à faire prendre conscience à quel point telle ou telle croyance est erronée. La vie n'a pas de sens, elle n'a pas de fin, elle ne sert à rien, etc. Et à ce moment-là, vous parlez de la mémoire qu'a la personne sur la personne qu'elle a chérie le plus au monde. Alors, ça peut être son grand-père ou sa grand-mère. Et même si cette personne est décédée, est-ce que pour autant, on arrête de penser à elle, on arrête de penser que ça a été une grande personne dans son quartier, elle avait fait beaucoup de bien, elle faisait particulièrement bien la cuisine, elle était la personne la plus aimante. Eh bien, moi, l'attitude que j'ai dans cette mémoire, si jamais j'entends quelqu'un dire du mal de cette personne-là, quelle va être ma réaction ? Je vais immédiatement réagir, je vais réagir comme si la personne était là, réellement. Mais ce n'est pas comme si, c'est qu'elle est vivante en fait. Et bien cette perception-là, ça permet de soulever le voile de l'éternité, de la réalité de la personne et de son éternité. Et donc, en fait, il faut aider. Alors, il faut le savoir déjà. Il faut savoir que toute personne a cette lumière en elle. Il faut en être conscient, même la pire des crapules, là on entend des personnes qui ont été condamnées pendant l'entracte musical. Là je relisais l'article de Saint Jean-Paul II et d'Ali Aka, ce Turc. Eh bien, Saint Jean-Paul II a su voir dans cet homme la lumière, l'espérance qu'il avait dans le cœur de cet homme. Étant figure du Christ, il n'est pas saint pour rien, Saint Jean-Paul II a été figure de miséricorde. Le fruit, Ali Aka s'est converti. Voilà. C'est d'en être convaincu, c'est de le savoir, savoir le voir. Et même si humainement, c'est absolument, ça peut être abominable, hein, les crimes commis peuvent être absolument impardonnables sur le plan humain. Mais là, il faut lire ce qu'a écrit Saint Jean-Paul II sur la miséricorde divine. Je vous invite à lire les derniers paragraphes de ce petit texte. Mais c'est absolument incroyable, c'est bouleversant de lumière, et où il parle de miséricorde et de justice. Et il dit que la vraie justice est alimentée par la miséricorde. Alors, il ne faut pas renoncer à la justice, mais la justice est alimentée par la miséricorde. C'est incroyable, faut voir ça. Et bien évidemment, il est absolument, il ne nous est pas demandé de renoncer à la justice, mais elle doit éclairer et prendre sa racine dans la miséricorde. Voilà. Comment aider ces personnes-là qui n'ont pas la foi ? Eh bien, c'est de les aider à prendre conscience que, un, ils sont infiniment aimés de Dieu, qu'ils sont créatures de Dieu, qu'ils peuvent être enfants de Dieu et qu'ils sont appelés à être auprès de Dieu. Alors, on ne va pas leur dire comme ça, hein. On ne va pas leur dire comme ça, parce que sinon, ils vont partir en courant. Mais en revanche, avec des mots qui leur sont accessibles, eh bien de prendre conscience que finalement, je peux croire à l'amour, je peux croire au pardon, je peux croire à la rédemption, je peux croire à plein de choses et qu'ils n'envisageaient pas. Je témoigne vraiment de... les gens, combien de fois ils m'ont dit « Non, je ne crois pas... pour moi, je ne crois pas en Dieu, etc. » Et puis finalement, on se rend compte qu'ils sont en train de vous annoncer, ils sont en train de proclamer une foi incroyable avec un cœur absolument complètement pur. Alors, c'est sûr, en fait, leur foi ne leur a pas été révélée ou elle a été étouffée. Mais en fait, ils ont un cœur complètement pur, mais ils n'en ont pas conscience.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Pascal Lafrogne. Nous arrivons au terme de cette émission.
Eh bien, écoutez, très chers auditeurs, Sandra, je vous dis au revoir, à la prochaine fois pour ce témoignage. Et puis, je vous porte tous dans mes prières. Ces émissions m'ont vraiment beaucoup, beaucoup apporté, vos témoignages, vos questionnements et toutes les recherches, les textes que j'ai été amené à lire m'ont beaucoup fait grandir. Et je remercie l'équipe de Radio Maria, je remercie les auditeurs et bien sûr, je remercie la Très Sainte Vierge Marie et Jésus de me donner toutes ces lumières. Merci beaucoup, je vous porte dans mes prières tous. Au revoir.
Merci, au revoir.